Donc, il était tzadik, tamim, hayab, dorotav. Dorotav, c'est un pluriel. La question qu'on pose, c'est pourquoi c'est un pluriel ici? Rachamim disent qu'il était tzadik et tamim dans la génération d'avant le déluge et par rapport à la génération d'après le déluge aussi. C'est ça, les dorotav. Et à Elohim, et à l'air noir. Noir a marché avec Hachem, avec Elohim. Alors, tout le monde connaît le tzadik bedorotav. Rashi dit, Yesh merabotenu dorshim oto le shevar. Certains disent que d'avoir dit de lui qu'il est tzadik tamim bedorotav, c'est en fait une louange. C'est pour dire qu'à plus forte raison, s'il avait été dans une génération de tzadikim, c'est-à-dire une génération qui était porteuse, il aurait été encore plus tzadik. Et d'autres le disent que non, c'est pour, c'est un peu une façon de diminuer son mérite, en quelque sorte, en disant que par rapport à cette génération pourrie, il était tzadik. S'il avait été dans la génération d'Abraham, il aurait été l'honneur Charles Clou. Il aurait été considéré comme quantité complètement négligeable. Une question qu'on peut poser, c'est qu'on a une mitzvah d'être dans le kafsrout, c'est-à-dire de juger positivement. Donc, puisqu'on peut interpréter comme ceci et comme cela, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui l'interprètent négativement, alors qu'ils pourraient l'interpréter positivement? Donc, c'est une question. Pourquoi est-ce que effectivement certains continuent de dire que c'est, ça peut s'interpréter négativement et d'autres alors peut-être qu'en fait ce que ça vient dire là, c'est qu'en vérité il y a plusieurs façons de voir les choses. Le négatif, c'est pas qu'il n'était pas tzadik, qu'il aurait été, c'est que en fait Noach était quelqu'un de fragile et qui savait que il pouvait se confronter à cette génération de gens complètement pourris sans être influencé par eux. Et donc, il a pris une sage décision qui est de se refermer sur lui-même pour se protéger. Parce qu'il était conscient de qu'il n'avait pas les moyens, en fait. Et donc, c'est ça qu'on veut dire, que par rapport, s'il était dans la génération d'Abraham, la génération dans laquelle Abraham s'est confronté, justement, lui, aux autres, et que Abraham n'a pas eu peur de se confronter, au contraire, il a réussi à influencer les autres plutôt que d'être influencé lui-même. Mais, d'un autre côté, on peut penser qu'il faut être réaliste. Si on sait qu'on n'a pas les moyens, alors ne va pas faire du kirouv, parce que finalement, tu vas te retrouver entraîné par la majorité des gens avec lesquels tu vas être confronté. Et donc, il faut plutôt rester chez soi si tu n'as pas les moyens de te confronter avec le monde extérieur. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait dire qu'on le voit négativement, parce que normalement, il aurait dû se construire de telle sorte qu'il puisse affronter le monde. Et ensuite, on dit, c'est ce qu'on dit, que Eta Elohim Ita Lech Noach, il était toujours avec Elohim, par opposition à Abraham, qui marchait Lifne Ha Elohim, devant Elohim, c'est-à-dire qu'il marchait devant, il inventait, toujours en vérifiant qu'il était toujours cohérent avec, il est toujours proche d'Hachem. Mais il inventait, tandis que Noach, il n'est pas capable d'inventer, il ne peut pas se permettre de s'éloigner d'Elohim du tout. Ça, c'était, si vous voulez, c'est une façon de voir la différence entre la génération entre Noach et sa génération et celle d'Abraham. Entre Noach et Abraham, je vous rappelle qu'il y a 10 générations. Donc, c'est un nouveau monde. Il y a un nouveau monde qui est le monde de ceux qui sont sortis de l'arche après le Maboul. C'est une espèce de, on essaye de nouveau Et puis ça échoue de nouveau. Ça échoue, sauf que ça échoue pas au point de ne laisser personne intouché, disons, puisqu'il y a un Avraham. Dans le deuxième essai, l'essai post-Maboul, c'est un essai qui, pour l'humanité, c'est un échec, mais néanmoins, ça produit un Abraham. Tandis que dans les 10 générations qu'il y a entre Adam et Noach, c'est un échec qui ne produit pas un Noach, puisque Noach, ou Matsachen, l'a trouvé grâce. On a l'impression que, OK, il ne le méritait pas vraiment. Il était peut-être le moins mauvais de... C'est parce qu'Hachem voulait continuer les choses. On l'a continué avec le moins mauvais. Et c'est pour ça qu'on dit il n'était pas justement à la hauteur, parce que ce qu'Hachem veut, c'est quelqu'un qui est capable de transformer le monde, et pas quelqu'un qui va être transformé par le monde auquel il est confronté. Alors, on va avancer un petit peu. Je veux ramener un Meshech Chochma, mais auparavant, on va sauter tout le récit du Maboul que tout le monde connaît, qui est évidemment très important, sinon la Torah ne l'aurait pas mis, mais voilà, donc, bon, finalement, on va passer directement au chapitre 7, au premier verset du chapitre 7. Si vous voulez bien vous transporter dans le chapitre 7, le pasouk dit Vayomer Hashem le Noach. Hashem a parlé à Noach. Bo ata v'chol betcha el ateva ki otcha ra'iti tzadik lefanai bador hazeh. Alors, le Hamed Davar, il dit, je vous rappelle de ce que Rashi a dit, Raïti tzadik, toi je t'ai vu tzadik dans cette génération. Rashi dit, l'onem a tzadik tamim, on n'a pas répété tzadik tamim comme on l'a dit au début de la parasha, mais quand je omrim miktsat shfacho shel adam, Befanav. Ça, c'est pour apprendre la leçon que quand on fait des compliments sur quelqu'un, il faut seulement en dire la moitié. Kulo shelo befanav. Quand il n'est pas là, on peut dire des compliments sur lui, on peut dire la totalité, on peut dire tout le hallel sur la personne. Mais quand il est là, il ne faut dire qu'une partie. Bon, ensuite, le Amek Davar sur place, il s'arrête sur qui autre. Il pasouk qui otra raïti tzadik le fanaï badorazé. Alors, Amek Davar dit, c'est pas très bien compréhensible tout ça. Pourquoi est-ce que maintenant on donne une raison à ce qui a été fait et pas plus tôt? On aurait dû dire plus tôt, il y avait la possibilité d'ajouter le. Quand Hachem lui a dit, que Vakimoti et Briti tra Ubata et la Teva, donc plus haut dans le chapitre précédent, on aurait dû dire ici qu'il a été choisi parce que lui il est le tzaddik dans cette génération-là. Donc, bon. « Alors, le Amek Davar dit à ce sujet, Nirée, il semble que quand on lui dit à Noach, Hachem lui dit, viens toi, vechod betra, toute ta maison, toute ta maisonnée en fait. Alors lui il dit, ça veut dire avadav. La Mecque d'Avar dit ici un chidouche. Il est en train de dire un chidouche parce que la tradition, c'est que seul Noach, ses fils et la femme de Noach et les femmes des fils ont été sauvés. D'après ce Amek Davar, les serviteurs de Noach, les esclaves de Noach, ont été sauvés aussi. C'est-à-dire, en fait, Kol Betra, ça veut dire tout ce qui est dans ta maison, tous ceux qui te servent. Et ici, il s'agit simplement d'assurer un service à Noach. Il ne s'agit pas ici d'assurer la pérennité de l'espèce humaine. Assurer la pérennité de l'espèce humaine, ça c'est Noach et sa famille. C'est Avadim, c'est autre chose. Alors, il y a un chidouche, mais on sait aussi, ben c'est un chidouche, mais vous vous souvenez, le fameux Og, le fameux géant Og, qui lui, a priori, a été aussi sauvé. Du coup, l'Agmara, là-bas, elle demande, mais oui, est-ce qu'il était pour avoir été sauvé, etc. Alors, on avait dit qu'il avait la tête dans l'arche, etc., parce qu'il était un géant, etc. Bon, alors là-bas, on voit qu'on doit donner des explications pour comment se fait-il qu'il y a quelqu'un d'autre que Noach qui a été sauvé. Ici, le Emek Davar, a priori, sans justifier, il dit que d'autres gens que Noach et sa famille ont été sauvés. À la limite, c'est, il dit, bon, de même qu'on a sauvé aussi ces animaux, les animaux qui étaient aussi les animaux nécessaires, pas seulement des animaux avec lesquels on va faire des korbanot. C'est aussi les animaux qui étaient le tsorkébéto. C'est pas pour la pérennité de l'espèce. Et donc, il fallait aider Noah parce que la tâche qui était la sienne à l'intérieur de l'arche était absolument tellement gigantesque, il avait besoin d'aide. Et donc, on a sauvé les gens qui allaient l'aider à faire ce qu'il avait à faire. C'est là-dessus que vient le passouk. Et ici, il faut faire attention, remarquer que jusqu'à présent, on a parlé du rapport de Noach avec Hachem, mais le nom divin qui est utilisé, c'est Elohim. Et voilà ici, dans ce verset-là, premier verset de Zayin, c'est Vayomer Hachem, c'est-à-dire le Shem de le rachamim, et pas le din. Donc ici, il dit, c'est pour ça que c'est un rachamim, c'est-à-dire qu'il y a un souci du bien-être de Noach, pas simplement de le sauver aussi pour sauver l'espèce. Parce que tant qu'il s'agit simplement d'assurer la pérennité de l'espèce, alors on utilise le nom divin Elohim. Pas seulement parce que ce nom-là, il indique la Midat Hadin, mais parce que c'est le nom qui est utilisé pour Bereshit Bara Elohim, la création du monde. Mais ici, on parle de Rachamim, on parle ici de quelque chose qui dépasse la nécessité de la pérennité de l'espèce humaine ou dans le monde. Donc c'est une forme de Hashgacha Pratit, de providence, qui a le souci du tzaddik. Vous avez remarqué, Vayomer Hashem, c'est à la fois Vayomer, qui est une parole douce, et à la fois le tétragramme, qui est le shem de la Rachamim. Sur ce même verset, voilà ce que dit le Mesher Chochma. Mesher Chochma, c'est presque la même génération que le Amek Davar. Peut-être on peut considérer que c'est une demi-génération après, une génération maximum. Mesher Chochma est plus jeune que, était plus jeune que le Netziv, le Amek Davar. Alors il dit voilà. Il dit, vous savez que Adam Arishon a reçu 6 mitzvot, et la 7e mitzvah, puisqu'on parle toujours des Sheva mitzvot d'Ebnei Noach, c'est effectivement Noach qui l'a reçu. Vous vous souvenez pourquoi? Parce que Adam Arishon, pour manger de la viande, Adam Arishon ne pouvait manger que de la viande d'animaux qui étaient morts, de même. Il n'avait pas le droit de tuer des animaux pour les manger. Certains veulent dire que Adam était végétarien, mais bon, c'est pas vrai, parce qu'il y a des midrashim qui disent qu'il y avait des malachim qui lui faisaient des méchouis réguliers. Donc, mais avec quelle viande? Avec la viande d'animaux qui étaient morts naturellement et pas d'animaux qu'on avait tués. C'est Noach qui va recevoir la permission de tuer des animaux pour les manger, avec une restriction. C'est qu'il ne peut pas prélever de la viande sur un animal vivant. Ça s'appelle Ever Minachai. Il ne peut pas arracher un gigot, quoi, en quelque sorte, un animal vivant et le manger comme ça. Il faut que l'animal ait été tué, c'est-à-dire qu'il soit vraiment mort. Donc, il a le droit de le tuer, mais il faut qu'il le tue vraiment. C'est-à-dire, par exemple, tant que l'animal a des soubresauts encore, on n'a pas les goïms, les bnei noirs n'ont pas le droit de le manger. Pas manger de la viande tant que la mort n'est pas vraiment absolue, quoi, en quelque sorte. Ce qui n'est pas notre cas à nous. Chez nous, la shrita est un matir. La shrita, elle permet tous les interdits qu'il y a sur l'animal. C'est-à-dire que même si l'animal a encore des soubresauts, en principe, la viande de cet animal est permise parce que la shrita permet, l'opération shrita, elle enlève tous les interdits. Enfin, elle n'enlève pas l'interdit de tréfa, bien sûr, mais si la viande est consommable, alors les interdits qui ont un lien avec la vie, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, tous ces interdits-là s'en vont. Avec la shrita. Alors, il y a donc 7 mitzvot des bnei noach. Donc on dit, voilà, ces interdits qui sont, en gros, des interdits qui ont été donnés à Adam, le Mesher Chochma dit, en fait, ce sont des moussagim, ce sont des notions, le nimus amdina. En quelque sorte, c'est des notions qui ont à voir avec le savoir-vivre dans la bonne façon, la façon convenable de vivre selon les lois des différents pays. Et ça correspond à un aga tib'it. C'est une façon de gouverner le monde naturellement. C'est une espèce de loi naturelle. Ce sont des lois naturelles. Et c'est pour ça que ces lois-là, les lois de les Sheva Mitzvot Bnei Noach, elles ne sont pas toutes dites explicitement dans la Torah, mais on les déduit du pasuk Vayetzav Elohim, quand Elohim a donné l'ordre à Adam Arishon, etc. Et là-bas, c'est pour ça que c'est marqué Vayetzav Elohim et pas Vayetzav Hashem. Elohim, c'est, vous savez bien qu'Elohim, c'est la gematria de Ateva, de la nature. Ateva, c'est la nature, c'est la même gematria, la même valeur numérique que Elohim. Donc ça montre que Elohim, c'est le Koach HaKochot, c'est-à-dire c'est la force des forces, la toute puissance, mais on parle ici de force naturelle. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de forces dans le monde, et toutes ces forces s'appellent Elohim. Et, par exemple, un juge, un tribunal s'appelle Elohim. Mais la gravitation aussi, elle s'appelle Elohim. Quelque part, tout ce qui montre qu'il y a un Elohim dans le monde, il y a des forces dans le monde et que ces forces sont en quelque sorte, il y a une hiérarchie de ces forces. Et tout en haut de cette hiérarchie, il y a Elohim qui donne à tous ces Elohim la force qu'elles ont. Maintenant, si c'est comme ça, alors, on est dans l'ordre des choses. Alors, le verset aurait dû dire Vayomer Elohim El Noach. Pourquoi dit-il que c'est Hachem qui est. Pourquoi c'est Vayomer Hachem El Noach? Il dit parce que Noach est en train de faire ici une mitzvah en plus des mitzvot, des Sheva mitzvot de Bnei Noach. Mitzvah Yetera. Quelle est la mitzvah qu'il y a pour Noach quand il va entrer dans la Teva? Sa mitzvah, c'est qu'il va avoir un interdit d'avoir des rapports conjugaux. Et ça, a priori, c'est pas quelque chose de l'ordre du naturel. Ça, dit-il, ça c'est de la nevoie, en quelque sorte. Ça veut dire, ça c'est Hachem qui lui parle à lui, directement. Alors, la raison pour laquelle les relations sexuelles étaient interdites, conjugales étaient interdites dans la Teva, c'est parce qu'il y a une règle qui est toujours valable, qui est que quand le monde entier est en deuil, en tristesse, etc., alors, un individu ne peut pas dire, moi, je prends mon plaisir malgré cela. Quelque part, il y a une façon de, un manque de solidarité, un manque d'empathie avec le monde. Et donc, on doit être en phase, et pour être on est en phase en se privant de ce plaisir-là. Et ça, c'est une halakha qui se pratique éventuellement pendant la guerre, etc. Est-ce qu'on avait le droit d'avoir des rapports conjugaux, etc. Bon, je ne veux pas maintenant entrer dans la halakha concrète, mais c'est ça l'idée. Alors, lui dit-il, le Meshech Chokhma dit, bon, ça c'est pas une loi naturelle. Et par conséquent, ça justifie Hachem, parce que c'est de l'ordre de la prophétie, quasiment. Ça veut dire, prophétie, c'est quand Hachem vous parle. Dans les lois de la nature, c'est aussi Hachem qui me parle, mais c'est à moi de décoder, en quelque sorte. Et là, il lui parle directement. Ensuite, il dit, mais on peut peut-être dire que non. On peut peut-être dire que en réalité, cet interdit-là de relation conjugale, on peut voir ça aussi comme une façon de, une empathie qui est normale, être en phase avec la souffrance du monde. Surtout que, à cette époque-là, les naissances étaient très, la naissance était très, rapide à partir de la conception. Donc, il y avait tout de suite de la joie. Et puis, il y a un autre problème, c'est que si on permet la reproduction, si vous voulez, les gens qui sont dans l'arche, avec une quantité de nourriture donnée, peuvent avoir peur de ne plus avoir assez à manger. Si le nombre de personnes se multiplie dans l'arche et que la quantité de nourriture ne change pas, évidemment, eh bien, il y aura un problème éventuellement, peut-être qu'on va mourir de faim. Donc, on peut penser que c'est quelque chose d'un peu normal, d'assez compréhensible, d'autant qu'il ne savait pas ni combien de temps, ni combien il serait dans l'arche si on se mettait à permettre les relations conjugales, c'est-à-dire une possibilité d'augmenter le nombre de personnes dans l'arche. Alors, en fait, si ce n'est pas ça la mitzvah, donc si ce n'est pas ça une mitzvah supplémentaire, alors on ne comprend pas pourquoi c'est marqué Hachem, puisque c'est de l'ordre du nimoussim, c'est de l'ordre de savoir-vivre que de ne pas multiplier le risque de famine, etc. Et donc, pourquoi est-ce que c'est marqué Hachem alors? Alors, on peut dire que, d'après cette opinion-là, il faudra dire que la mitzvah supplémentaire, c'est l'ordre qu'Hachem lui a donné de prendre dans l'arche des animaux en nombre supérieur à ce qui est nécessaire pour assurer la pérennité de l'espèce. Vous savez que les animaux qui sont appelés théorimes, c'est-à-dire les animaux qui sont consommables, et surtout les animaux qui sont approchables comme corban, il devait en prendre sept. Et donc, donc il a une obligation d'approcher des corbanotes. En fait. Ça, c'est c'est une mitzvah qui n'a rien à voir, du coup, avec le savoir-vivre, le savoir se conduire, l'empathie, etc. Donc, c'est pour ça que dans les korbanot, dans les psukim qui parlent des korbanot, le korban, ça n'existe pas un korban l'Elohim, un korban laquelle, ou un korban lequel chakaï, etc. Un korban, c'est toujours korban l'Hachem. Toujours korban pour Hachem, pour le tétragramme. Alors, certains disent que la raison pour laquelle, effectivement, il n'y a jamais de Corban l'Elohim, parce que ce serait en fait ouvrir la porte. Alors, il y aurait Corban l'Elohim, et puis après Corban l'Elohim, à des Elohim de toutes sortes. Et donc, ce serait l'ouverture à l'idolâtrie. C'est ce que Ben Hazaï dit à la fin de la Gemara dans Menachot. Donc, c'est pour ça que ici, c'est marqué Vayomer Hachem. Donc, on a pour le Mesher Chokhma deux raisons. Selon qu'on considère que les relations conjugales interdites dans l'arche, c'est quelque chose de normal ou que c'est quelque chose de spécifique qu'Hachem demande et qui est une demande au-delà de ce qu'on comprend par soi-même. À ce moment-là, on a une autre raison pour l'occurrence Hachem dans ce verset-là plutôt que Elohim. Le Meshech Chochma, il continue et il dit la chose suivante, une chose aussi importante. Évidemment que dans ces parchiotes du début, ils amènent toutes sortes de principes, de règles fondamentales. Et il dit ici que l'épreuve pour toutes les créatures, cette épreuve, c'était une épreuve de se limiter. Se limiter, c'est exactement le contraire de ce que faisaient les gens à l'époque du Maboul. L'époque du Maboul, c'est le sans limite. Il n'y a rien qui ne soit pas permis. Et donc, le travail des créatures post-Maboul, donc en particulier dans l'arche, c'est d'accepter l'idée de devoir se réfréner et aussi d'accepter le fait que Noach et ses enfants sont les chefs en quelque sorte. Ils sont les maîtres, c'est eux qui ils sont les antédiluviens, et donc tous ceux qui vont venir après doivent normalement se plier aux directives de Noach et de ses fils. Ils sont les manigim du monde, ils sont les dirigeants du monde. Ils sont quelque part, Noach et sa famille, c'est une espèce d'Adam Harishon, version familiale et version post-Maboul. D'accord, le monde a été créé avec un être, Adam, et il est recréé après le déluge avec une famille, à partir d'une famille. C'est pour ça que certaines choses qui ont été dites à Adam Harishon sont là répétées pour Noach, parce que Noach, c'est le Adam Harishon d'après le déluge. Et maintenant, l'épreuve de Noach, on a parlé de l'épreuve des autres, l'épreuve de Noach, c'était le Hamal, le travail, c'est un travail complètement fou qu'il a dû fournir à l'intérieur de l'arche, et aussi la patience qu'il a fallu pour nourrir chaque animal à son rythme, en fonction de lui donner exactement ce dont il a besoin, au moment où il en a besoin. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il est le maître, mais il est quelque part soumis à la volonté du monde animal. Et il y a un midrash qui dit que Noach, il a été blessé par un lion qui trouvait que le service laissait à désirer dans l'arche. Donc, il lui a donné un coup de patte pour bien comprendre que c'est pas seulement un pourboire qu'il n'aura pas, mais ça sera encore un peu plus grave. Et il a raconté, il y a un midrash qui dit que Noach a raconté à Eliezer, le Eved d'Abraham, il lui a raconté tout ce qu'il a souffert dans l'arche, toutes ses difficultés. Alors, quand on dit qu'il était tzadik et tamim, alors, dans la Gemara, on dit tamim, qu'il était tamim entier, c'est-à-dire simple. Simple, ça ne veut pas dire qu'il était un benet, ça veut dire qu'il était entier, comme un corps simple, si vous voulez, qu'on ne peut pas, d'une certaine manière, on ne peut pas le décomposer. Tamim bidrachav et tzadik bema'asav. Tamim bidrachav, ça veut dire anav et savlan, dit Rashi. Il était humble et il était patient et il supportait les caprices de ses sujets, en quelque sorte. Mais évidemment, La connaissance d'Hachem, Yediat Hachem, Yidbarach, ça n'impose pas qu'il y ait Bechira. Et ici, la connaissance des Nivraïm va l'obliger. ça va lui imposer quelque chose. Donc, si Gilad avare le noir qu'il est Tamim, donc c'est-à-dire sa connaissance, il était conscient que il avait la prira, mais d'un autre côté, il était obligé de prendre en compte la volonté des animaux, les rythmes du monde. Donc Hachem ne lui a pas dévoilé à lui tout ça. Il est resté avec sa Bechira. Il était d'une certaine manière libre, mais de façon nécessairement libre en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'il était d'autant plus méritant. Effectivement, il se sentait libre. Il n'a pas compris qu'il était obligé à tout cela. Hachem ne lui a pas dit à l'avance ce à quoi il allait être obligé. Donc, c'est un grand mérite, en fait, d'avoir pris tout ça sur lui. Quand Noé est sorti de l'arche, il a construit un misbéach, il a construit un autel, et il a apporté des corbanotes. On vient de dire que il a apporté des corbanotes parce que Hachem lui avait ordonné de prendre dans l'arche des animaux en nombre suffisant pour qu'il puisse apporter les corbanotes. Alors il a apporté les corbanotes et Hachem a agréé ces corbanotes. Alors, puisqu'il devait, il y avait pas un problème pour Hachem d'accepter l'idée qu'il apporte un corban. Vous voyez, lui, on lui a prescrit d'apporter un corban. Hachem n'a pas ordonné à Adam Arishon d'apporter un corban. Il a apporté un corban. Mais avant lui, Caïn et Hevel ont apporté les corbanotes. Donc, il y a eu une invention des corbanotes dans la première version de l'humanité, si vous voulez. Dans la deuxième version, la version post-Maboul, il n'y a pas d'invention des corbanotes. Les corbanotes sont prescrits. Comme si, effectivement, on sait ce qu'a donné l'invention des corbanotes. Ça a débouché sur le fratricide. Donc on n'a pas laissé la liberté d'inventer un corban. Mais on a prescrit à Noir d'en approcher. Alors dans ce cas-là, évidemment qu'Hachem va l'agréer. Eh bien non, il faut dire que Hachem a agréé le corban, marqué « Réach Nichoach », en odeur agréable, c'est une façon de dire l'agrément. Donc, qu'est-ce que c'est l'agrément d'un corban qui est prescrit? Nous, on a ce problème parce que on fait toutes sortes de choses qui sont prescrites et on demande à Hachem de les agréer. Dans chacune de nos tfilotes, la tfila, la prière, elle est prescrite. Mais dans toutes les tfilotes, à la fin des demandes, ou après avoir mentionné la Gdusha du jour, comme Rosh Shabbat ou Yom Tov ou Rosh Chodesh. Voilà, je profite de l'occasion pour vous souhaiter Chodesh Tov. Bon, je n'ai pas dit sagement pour ça. Nous disons Retse, Hachem. On demande à Hachem d'agréer notre tfila. Mais pourquoi il agréerait pas? C'est lui qui m'a conduit. Il m'a ordonné de prier. Le problème, c'est comment tu pries? Quel investissement de toi-même il y a dans ta prière? Et c'est ça qui va décider de l'agrément ou du non-agrément, Chas v'Shalom, de la prière. D'une certaine manière, quand on sait prier, on a l'impression que la prière est obligatoirement agréée. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est sûr de savoir prier. D'où est-ce qu'on sait que la prière est... C'est-à-dire, littéralement, le théorème, c'est il existe quelqu'un dont la prière est obligatoirement agréée. C'est Moshe Rabbeinu. Parce qu'Hachem, à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu prie pour entrer en Eretz Israël, Hachem lui dit « arrête de prier ». Il lui dit « si tu continues de prier, tu vas obtenir ce que tu demandes. Mais ce n'est pas bon pour toi, ni pour le clan Israël. » Donc on voit que Hachem n'a pas dit « tu peux toujours prier, je n'écouterai pas ». Non. Il existe quelqu'un qui peut prier et de toute manière Hachem va écouter. Mais bon, c'est tout à fait exceptionnel chez mon cher Rabbeinu. Parce que le Rambam dans les Hilchot Tshuva, il dit que quand quelqu'un a fait des fautes, il est loin d'Hachem et on peut être même dans une situation où Hachem n'accepte pas ni nos mitzvot, ni notre filot. Donc, il n'accepte pas. Et c'est... À ce moment-là, si quelqu'un est dans cette situation, alors il est complètement perdu. Alors bon, c'est une parenthèse. On n'est pas complètement perdu parce que la tfila, comme les mitzvot, elle, pour monter dans le ciel, elle passe à l'intérieur de nous-mêmes et le ciel, en quelque sorte. D'une certaine manière, c'est notre neshama. Puisque notre neshama, c'est un chelek elok amimal. C'est notre neshama, c'est une partie de la divinité. Mais l'âme humaine, elle est composée de trois niveaux, en fait. Il y en a cinq, mais on ne parle que de trois. Un niveau qui s'appelle nefesh, un niveau qui s'appelle ruach, et un niveau qui s'appelle Neshama. Les mitzvot, la prière, en tant que geste de prière, ça commence avec le Nefesh, c'est-à-dire avec le corps, si on veut. Ça monte au Ruach et à la Neshama, et la Neshama, de la Neshama, ça va tout en haut, parce que la Neshama, elle a déjà un contact avec tout en haut. Ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un se disqualifie vraiment, arrête ou des choses comme ça, alors ces mitzvot et ces atfila, elles restent au niveau nefesh et puis il y a une coupure et ça ne monte pas plus haut. Alors, si ça ne monte pas plus haut, alors comment on fait pour faire tshuva? Alors, justement, le truc, si on peut parler comme ça, c'est que la rupture, elle est entre Nefesh et Ruach. Mais si j'arrive à entrer directement au niveau du Ruach, entre Ruach et Neshama, ça, il n'y a pas de rupture. Or, la tshuva qui se fait, c'est pour ça qu'on dit que ça doit se faire en parole, ça doit être parlé. Le niveau parole, il entre directement dans Ruach. Donc, dans la tshuva, par le biais de la parole, du vidouille et des engagements, ça monte et ça peut être entendu. Et si c'est entendu, alors il y a un flux descendant et le flux descendant, il va réparer en quelque sorte la coupure. Et ce flux descendant va annuler la coupure, ce qui fait que par la suite, les mitzvot et la tfila vont pouvoir monter normalement. Donc, en réalité, les êtres humains, s'ils font les choses normalement, la tfila est entendue. Et il y a un principe dans la Gemara qui dit que Ena tfila choseret rekam. La prière ne revient jamais vide. Je ne vais pas entrer maintenant là-dedans, mais en tout cas, grossièrement, ça veut dire la prière est toujours entendue. Sauf dans les cas que je vous ai mentionnés, quelqu'un s'est à ce point disqualifié que sa prière n'est pas audible. Il ne peut pas monter. Du coup, il faut passer par la tchouva, et après... Mais Moshe Rabbeinu, lui, il était à un stade où, effectivement, il savait comment prier, et ça allait être entendu, sauf qu'Hachem lui a dit « cesse de prier ». S'il te plaît, arrête de prier.
J'ai une question.
Oui.
J'ai pas bien compris. Le processus de Tshuva, il permet le passage de la Tfila du Nefesh vers la Neshama, sans passer par le roi.
Le processus de Tshuva, la Tshuva elle-même, elle monte et elle est reçue. Hachem accepte la Tshuva. S'il accepte la tchouva, ça veut dire qu'il redonne le flux de ses bontés. Et le flux des bontés, quand il descend, il traverse la neshama, il traverse le ruach, et il répare la faille qu'il y a entre ruach et nefesh. Donc ça répare. Et par la suite, donc, la personne qui a fait tchouva, elle va pouvoir faire des mitzvot et prier. Et ça va monter normalement.
Oui, mais comment se fait le passage par la tchouva? Comment est-ce que la tchouva...
La tchouva, elle est directement au niveau ruach. Donc, elle peut monter. Il n'y a pas de brisure. Il n'y a pas de faille entre ruach et neshama. La faille, elle est... Donc, il n'y a que les choses qui doivent passer obligatoirement de nefesh à ruach qui ne peuvent pas monter. C'est-à-dire tout, sauf la tchouva.
Parce que c'est une forme supérieure de tfila, elle a...
C'est pas une tfila, la tchouva. La tchouva, c'est une démarche particulière, extraordinaire, incompréhensible. Bon, on va pas refaire les shiurim, vous remettez en marche les shiurim sur la tchouva. On peut pas faire tchouva toute l'année, quand même. Donc, ça, c'est la tchouva, quelque chose d'absolument extraordinaire. Presque incompréhensible, mais dans la spécificité de la tchouva, il y a que ça entre directement au niveau 2, si vous voulez. Ça passe du niveau 2 au niveau supérieur. Donc, ça entraîne, quand c'est agréé, si la tchouva est agréée, ça entraîne le déversement du flux des bontés divines. Et ce flux-là, il est à la fois bienfaisant, mais il est aussi réparateur. Et répare la faille. C'est un tout petit peu plus compliqué, mais je ne veux pas entrer là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Je ne me rappelle plus, évidemment. Donc, Noir. Ah oui, l'agrément. C'est ça, on parlait de l'agrément. Donc, Hachem a agréé le corban de Noir. Ça veut dire que la marchava, la pensée de Noach quand il a approché les corbanotes, c'était certainement une pensée qui, premièrement, était une pensée de reconnaissance. Il faut être reconnaissant d'avoir été sauvé, une situation de laquelle personne n'a été sauvé sauf lui. Lui et sa famille. Il y a de quoi être reconnaissant, je pense. Donc là, c'est clair que il a fait ce qu'il fallait et ça a bien marché. Seulement, ensuite, la Torah, elle nous rapporte « Vayachel Noach Isha Adama Vaita Karem » et le Isha Adama, si du coup il est devenu l'homme de la terre, comme si Isha Adama, c'est une expression qu'on utilise pour décrire un couple, Ish, Naomi, d'accord. Et là, Ish Adama, comme s'il était marié à la terre tout à coup. Et il a planté une vigne, Et il a bu du vin et il s'est enivré. Et puis avec les conséquences que vous connaissez. Il y a un Midrash Rabba qui dit la chose suivante. C'est marqué dans le pasouk Vayachel. Vayachel, c'est Atrala. Il a commencé. Mais le mot Vayachel, c'est souvent mis en rapport avec Nitralel, Benassé Choulin. Il s'est profané. Profané, initialement, ça voulait dire faire passer du sacré au profane. Quelque part, il y avait une dimension sacrée en Noir. Il est devenu lui-même un objet tout à fait exceptionnel, puisqu'il est l'objet qu'Hachem a sauvé du déluge. Et là, on nous dit, il s'est profané. C'est-à-dire, il est retombé, on peut presque dire, au niveau des pâquerettes. Lama, d'où est-ce qu'on sait dire que Vayachel, qu'on peut dire, qu'on peut traduire par « il a commencé », pourquoi est-ce qu'on va le traduire, comme le Midrash dit, « il s'est profané » Parce que « lo ayalo lita davar acher » chez le Takana, il y avait d'autres choses à planter avant la vigne en fait. Mais non, lui, il a planté une vigne. Et planter la vigne ici, ça voudrait dire que c'est ça l'idée de profanation. C'est ça qu'on va essayer de voir. Je vais vous rapporter ici un enseignement de David, celui qui a inventé Dirchou, David Hofstetter. Alors, il explique les choses de la manière suivante. Le fait qu'on, dit-il, le fait qu'on accuse Noach d'avoir planté, disons, une espèce de luxe, quoi. Et pas quelque chose, il aurait dû planter du blé. Donc, cet argument-là, il faut un peu le critiquer, parce que, a priori, Noach, il est en quelque sorte en deuil. Il est en deuil du monde. Il est dans un monde qui est complètement détruit. Il a survécu. Mais ils sont tous morts. Le monde est mort. Sa famille, en dehors de sa femme et ses enfants, exactement, la famille de Noach, ils sont tous morts. Il s'agit d'un deuil qui n'a jamais eu lieu avec cette ampleur. Personne n'a jamais été endeuillé du monde entier. Alors, dans Chazal, on trouve qu'à l'endeuillé, on lui fait boire du vin pour un peu apaiser sa douleur. Au point que dans l'Agma, dans Sanhedrin, on dit « l'onivra yain ba'olam » le vin n'a été créé dans le monde « et la kede le nachem bo abelim » n'était créé que pour consoler les Avelim, les endeuillés. Marqué effectivement dans un pasouk dans Michelet, un pasouk des proverbes qui dit Tenu shechar la oved, veyain le marinefesh. Pour donner du vin à ceux qui sont amers. Donc, pour cette raison, les chachamim ont été metaken, ils ont instauré que dans la maison du Avel, ils ont instauré qu'on boive Esser Kosot Shaliyahim, la Gemara donc tout. Finalement, on a annulé cette takana parce que les gens se sont mis à boire trop et à s'enivrer avec ça. Mais dans l'idée, c'était ça.
Rav, s'il vous plaît, comment fait-on le joint à ce moment-là entre le vin pour les endeuillés et le vin, le rapport du vin avec le nazir et le vin pour la kedusha, pour le kidouche, pour les fêtes
et le vin d'élibation, etc.
Oui.
Alors, je n'ai pas prévu encore de faire un cours sur le vin, Claudine, mais ça viendra. C'est avec dégustation, j'espère.
Ouais. Bon, merci. Alors, j'étais inquiète.
La vraie.
Non, mais là, le deuil...
J'ai entendu l'inquiétude. Oui. Non, on va en parler, mais peut-être pas maintenant. Alors, certains pensent qu'effectivement, dans la Soudat Avraha, c'est le premier repas que mange le Havel quand il revient du cimetière, quoi, si on peut parler comme ça. Certains disent qu'il doit boire du vin, il peut boire du vin. Et il peut boire du vin même s'il est nazir. Donc, du coup, on peut, avec tout ça, on peut s'étonner. Pourquoi est-ce qu'on accuse Noach d'avoir planté une vigne? Il a fait ce qu'il fallait pour pouvoir se consoler en buvant un peu de vin. On peut essayer d'expliquer les choses de la manière suivante. Rashi, à la fin de la paracha, il dit, il explique, il vend la mèche là-bas. Il dit, Lama ikdim akatuv mitato shel terach liitziato shel Avraham. Pourquoi est-ce que, à la fin de la parchat Noach, on nous dit la mort de Terach, et au début de l'Ech Lecha, on nous dit le départ d'Avraham? En fait, on sait très bien, comme dit Rashi, il vend la mèche, quoi. On sait très bien que Avraham, il a abandonné son vieux père. Il a quitté Terach, qui était un vieillard, de son vivant. C'est comme si la Torah, elle voulait nous induire un peu en erreur, là. On fait comme si Terach est mort, et du coup, Avraham, il est parti. Ce n'est pas un méchant garçon qui a abandonné son père. Et le Rashi dit, « Shelo yadavar mefursam lakol » que tout le monde ne sache pas que « Lo kiyem Avraham et kvod aviv » Il y a un manque de kavod à l'égard de son père. Il a laissé son vieux père. Donc, c'est pour ça que la Torah veut présenter Terach comme mort. Le Maharal explique. Rashi ne veut pas dire que la Torah, en quelque sorte, voulu défendre le kavod d'Abraham. Et que le fait que Avraham n'a pas donné de kavod à son père, c'est-à-dire il l'a abandonné alors qu'il était un vieillard, Béhémet, c'est pas considéré, on veut essayer de dire que c'est pas considéré comme un gnaï, comme quelque chose de négatif pour Avraham. Parce qu'en fait, Avraham a ouvert une nouvelle ère, l'ère un nouveau monde, le monde du peuple juif, en fait. Et ça veut dire qu'il a, voulu qu'il y ait une rupture avec le monde de Terach. S'il s'était simplement séparé d'un Terach enterré, la rupture n'est pas tellement évidente. Mais ici, en l'abandonnant, il a voulu montrer qu'il avait, il y a une coupure radicale avec le monde d'avant. Et donc, c'est pour ça que Abraham, de ce point de vue-là, Abraham, il est considéré comme un guerre, comme un étranger. C'est-à-dire comme quelqu'un qui s'est converti, disons. Parce qu'on dit guerre, un guerre chez Nidgayer, qui katan chez Nolad Dami. Quelqu'un qui s'est converti, il est considéré comme un enfant qui vient de naître, c'est-à-dire il n'a pas de, il n'y a pas de passé, en fait. Et donc, il n'avait pas de mitzvah de Kiboudav. En fait, le Ramban, il écrit que bien que le guerre soit considéré comme n'ayant pas de relation, il n'a pas d'ascendance, il n'a plus d'ascendance, il a rompu avec son ascendance. Néanmoins, dit Ramban, il porte le deuil de ses proches quand il meurt. Pourquoi? Parce que c'est naturel d'être triste à ce sujet-là. Mais la halakha, on n'est pas possèd comme ça. Mais le Ramban pensait comme ça. Donc, il faut peut-être ajouter à ce qu'on vient de dire ici au nom du Maharal, que cette façon de rompre avec son père, avec sa famille, ça a commencé quand Hachem a donné l'ordre à Abraham, Lech lecha me'artzecha me'olatecha u'mibet avicha. Tu quittes la maison paternelle. À ce moment-là, c'est la parole divine qui a coupé le lien entre lui et Terach. Et c'est comme ça qu'il est devenu comme un katan qui a pas de, qui n'aurait pas d'ascendant. Maintenant, on comprend évidemment mieux Rashi, que bien que Terach ait vécu de nombreuses années après qu'Abraham l'ait abandonné, néanmoins, depuis ce moment-là où Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre, Lech Lecha à Abraham Avinu, tu quittes Beit Avicha aussi, Terach était considéré comme mort par rapport à lui, sur l'ordre d'Hachem. C'est pour ça que la Torah a écrit la mort de Terach avant Lech Lecha. Parce que au moment du Lech Lecha, voilà, c'est Terach meurt par rapport à Abraham. De cette manière, on peut aussi comprendre les reproches qui sont faits à Noach d'avoir planté de la vigne. Et puisque HaKadosh Baruch Hu a décidé que il fallait éradiquer complètement le monde d'avant le Maboul, qu'il n'existe plus du tout, ce monde. Il n'y a plus rien de ce monde qui existe, sauf le contenu de l'arche, en fait. C'est-à-dire qu'on ne veut plus du tout se référer à ce qui s'est passé avant le Maboul. Et ça veut dire qu'avec l'époque de Noach commence une nouvelle ère. Une ère qui n'a plus rien à voir avec ce qui s'est passé avant le Maboul. Et d'une certaine manière, ça veut dire que il n'y avait pas lieu de la veloute. Il n'y a pas lieu d'être en deuil. Parce que le deuil il est justifié parce que des gens avec lesquels j'ai un lien, le Havel, l'endeuillé, il a des liens et ces liens sont coupés parce que ces personnes sont mortes. Mais à partir du moment où il s'agit d'une ère nouvelle, Noir n'a plus rien à voir avec ce qui était avant. Donc, il n'y a pas d'Avelout. Au contraire, Akadosh Baruch Hu veut que le monde soit un vrai monde nouveau, vraiment nouveau. Donc, il n'y a pas lieu de se désoler de la disparition de ce monde. Donc, Noir n'est pas en deuil. Et on peut voir que les choses sont dites de façon extrêmement précise. Ce Chazal dit sur Noach, Ayalo lita davar shel takana. Il aurait dû planter quelque chose de constructif, en quelque sorte. Quelque chose qui va arranger, qui va construire. Puisque c'est une nouvelle ère qui commence, donc il doit s'occuper du futur. Occupe-toi de construire le monde. Et pas de t'attrister du monde qui vient de finir. Donc on comprend ici, effectivement bien dans le texte de Chazal, il aurait dû planter quelque chose qui est de l'ordre de la takana. Quelque chose qui construit l'avenir. Sur cette idée-là, on peut opposer la chose suivante. Abraham, il n'avait pas d'obligation de kiboudav, venant du Passouk. Passouk qui dit « Ata tavo el avotecha » Beshalom, tikaver, beseva tova. On dit à Abraham que, voilà, tu vas mourir, tavo el avotecha beshalom. Tu vas arriver en paix vers ton père, vers tes ancêtres. D'après ce que Rashi a expliqué, que puisque son père était un idolâtre, et qu'est-ce que ça veut dire qu'on lui dit, on lui annonce, Abraham, tu vas rejoindre l'idolâtre? Rashi dit, puisqu'on dit à Abraham qu'il va rejoindre son père, ça veut dire que Terach a fait tshuva. Parce que c'est pas, on peut pas dire que Abraham va rejoindre son père si son père est un idolâtre. On va pas lui dire comme quelque chose de Suratova, une annonce positive, tu vas rejoindre ton père. Mais là, il faut réfléchir. Si Abraham n'avait aucun lien, n'avait plus aucun lien avec Terach, son père, et qu'il avait absolument aucune mitzvah de Kavod, qu'est-ce que ça veut dire que tout à coup, il va se retrouver dans la compagnie de son père dans Olam Haba? Alors, il faut, je propose ici ce Rav David, c'est de dire que l'amida de Abraham, chacun sait, c'est l'amida de Chesed, l'amida de générosité. Elle était tellement grande, cette mida, et tellement parfaite, cette mida d'Abraham, que bien que la halakha, il n'y ait pas de lien familial, il n'y ait plus de lien familial entre Abraham et son père, Abraham a le souci de la tova, du bien, pour son père. Et il veut que Il veut que Terach ait la chance de faire tshuva et d'accéder par grâce à cette tshuva au Olam Haba. Donc on voit ici que les midot d'Abraham étaient à ce point raffinées en quelque sorte, à ce point parfaites, que bien que son père ait été un idolâtre qui, à un moment donné, a suivi Abraham, mais ensuite, Razal dit qu'il est retourné. Vous vous souvenez que la Torah, que quand Terach a quitté Ur Kasdim, il a pris Abraham et sa femme, il a pris Lot aussi. Donc il y avait le fils de Haran, mais il y avait un troisième frère qui s'appelle Nahor, et lui n'est pas venu avec eux, parce que Nahor, il est resté idolâtre. Il n'était pas prêt à quitter l'idolâtrie mésopotamienne, alors que Terach, il quitte cette idolâtrie, et quand il est avec Abraham, il n'est pas vraiment idolâtre. Mais quand Abraham l'abandonne, il retourne chez son fils Nahor. Et bien qu'en réalité, donc son fils, son père ait été idolâtre, en réalité, Terach a dénoncé Abraham à Nimrod. Rashi, sur place, il m'a expliqué que quand Nimrod a jeté Abraham dans la fournaise, c'est parce que Terach l'a dénoncé. Malgré tout, l'idée que Terach a fait tshuva, il l'entend comme une bracha. Et par conséquent, Hachem lui dit, tu vas être auprès de ton père, tu vas être dans l'Olam Haba avec ton père. C'est la mida de Chesed d'Abraham, elle va jusque-là. Il ne tient pas compte de tout le mal qu'il lui a fait, du fait qu'il a été une grande partie idolâtre de sa vie, et qu'ensuite, et après que lui l'ait quitté, il est retombé dans l'idolâtrie, mais ultimement, Rachid dit, on voit que, bien que le texte ne nous le dise pas, mais du fait qu'on dit ça à Abraham Avinu, il va être avec son père dans l'Olam Haba, on en déduit que Terach a fait tshuva. Et Abraham se réjouit en quelque sorte, et c'est considéré comme une bonne nouvelle qui lui est donnée que effectivement tu vas rejoindre ton père. On serait ensemble dans l'Olam Haba. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais c'est le cas de toutes les parchiotes, et en particulier ces parchiotes du Sefer Bereshit. C'est tellement énorme, il faut bien se rappeler que dans Bereshit, on est allé dans la parcha de Bereshit, on est allé d'Adam à Noach, 10 générations, et de, oui, 1600 ans en gros, et ensuite de Noach à Abraham, de nouveau 10 générations, et donc d'Adam à Abraham, quasiment 2000 ans. Donc en deux parchiotes, l'affaire est terminée. On a passé 20 générations et 2000 ans. Donc on comprend que ce soit extrêmement dense ce qu'on nous en dit. Bien que la question de savoir qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah, bon, pourquoi est-ce que ça fait partie de la Torah? Pourquoi est-ce que la Torah ne commence pas avec le Chodesh Hazelachem, pratiquement, avec la sortie d'Égypte. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que tout ce Sefer Bereshit, plus le début du Sefer Shemot? Comment se fait-il que ce soit intégré à la Torah, alors que c'est avant la Torah? C'est sans la Torah? C'est une grande question qu'on ne va pas résoudre ce soir. Voilà, je vous souhaite Chodesh Tov.